Parcourir la France et découvrir ce qu'elle propose, Lucas a embarqué pour un périple extraordinaire à travers la France. Imaginez-vous voyager des sommets enneigés des Alpes au soleil de la Méditerranée, en passant par les falaises rugueuses et majestueuses de Bretagne, des montagnes aux côtes, traversant ses fleuves et ses rivières qui jalonnent ses multiples vallées. Ce pays offre une grande diversité géographique et climatique, poussant de nombreux adeptes de sports de nature à venir l'admirer.
Lucas, explorateur intrépide et amoureux de la France, a voulu la contempler sous tous ses aspects. Pendant 6 mois, il a parcouru les routes sinueuses, les sentiers isolés et les cours d'eau scintillants de cette nation fascinante. À pied, à vélo et en kayak, il a exploré chaque recoin de la France, découvrant ses trésors cachés et ses paysages époustouflants. De la sérénité des vallées verdoyantes aux villes vibrantes et animées, Lucas a capturé l'essence même de ce pays extraordinaire.
Mais ce voyage n'était pas seulement une quête personnelle pour Lucas, c'était aussi un appel à la préservation de la beauté naturelle qui nous entoure. En s'immergeant dans la diversité géographique de notre pays, à travers les acteurs qu'il a rencontrés, Lucas a voulu sensibiliser les gens à l'importance de protéger ces paysages magnifiques pour les générations futures.
Cet épisode est en collaboration avec Interrail.
Afin de rencontrer de nouvelles personnes pour vous faire voyager à travers Horizons Partagés, nous avons opté pour un périple en train à la découverte de l'Europe en avril 2023. Pour ce faire, nous avons choisi de collaborer avec Interrail, un pass ferroviaire permettant de découvrir jusqu'à 33 pays d'Europe et conçu pour les Européens.
Le jour où je suis parti, au bout de 10 km, je réfléchis, je me dis « Ok, plus que 7590 km ». Je m'appelle Lucas Silvestro. Je suis parti le 20 mai 2023 pour un tour de France, faire le tour de la France à pied, à vélo et en kayak. Donc l'idée, c'est de... il y avait deux règles principales. C'était pas sortir du territoire et pas utiliser de moteur autre que musculaire. L'objectif, c'est de montrer qu'en France, ou même... rien que dans le Var ou peu importe où, on peut faire des aventures très locales et que ça parte dans des proportions quand même assez dingues parce que j'ai quand même découvert des choses sur moi-même, sur des états dans lesquels je me suis trouvé et rien qu'en termes de paysage, de diversité, j'ai trouvé des choses assez incroyables. Et l'idée, c'est de montrer que localement, à petite échelle, lentement, on peut faire des choses incroyables et qu'on voyage plus en faisant 30 km à pied que 1000 km en avion. La plupart des gens ne connaissent pas leur quartier, moi le premier. Entre le moment où j'ai imaginé le projet et le moment où je suis parti, c'était 1 an et demi, à peu près. Donc il y a eu le moment où j'ai réfléchi en mode « Ah tiens, qu'est-ce que je vais faire ?» Au début, je voulais faire juste le tour de la France à pied. Juste. Et en fait, je suis parti pendant une semaine dans les Pyrénées pour me mettre à l'épreuve. Je vais faire les 3 grands GR de Sentier de Grande Randonnée de France, à savoir le GR10, le GR5 et le GR34, donc la traversée des Pyrénées, la traversée des Alpes, du Jura, des Vosges et le Tour de Bretagne à pied. Ça, c'était le projet premier. Après, j'ai voulu me dire, j'ai trouvé des épreuves entre tout ça quoi, pour faire quelque chose. Quoi. Et Méditerranée, il y a de l'eau, tant qu'à faire, autant faire en kayak. Donc, du coup, j'ai rallié Menton depuis Bagnoul-sur-Mer, 545 km. Déjà, la troisième chose un peu que j'ai appris sur ce périple de une semaine dans les Pyrénées, c'est que en fait, je me suis blessé à la moitié de la première journée. Donc mon genou il m'a dit non, on va pas faire ça. Et je lui ai dit si, mais je lui ai dit si sur 130 km et c'est pas une bonne idée. Donc j'ai appris qu'il fallait que je sois malin et qu'il fallait que je m'assouplisse, que je devienne une machine, en fait, il fallait que je sois capable d'enchaîner ces kilomètres. Et d'ailleurs, quand j'ai passé au premier jour du périple, là, le 20 mai, quand je suis passé à ce niveau-là, je me suis dit, pas de blessure, s'il vous plaît. Et puis en fait, c'est pas de blessure. Et au final, pas de blessure du tout, presque. Donc là, je me suis dit, il faut que je m'entraîne comme un fou. Donc c'était tous les jours du sport, du yoga, des assouplissements, physique, mentale. J'ai toujours fait du sport, mais j'ai pas toujours apprécié. Donc en fait, mes parents m'ont mis toujours au sport, je fais de tout. Et surtout à la fin, donc quand je passais au lycée, j'étais surtout sur du planche à voile. J'aimais pas du tout la course à pied, je m'y suis mis, j'adore maintenant et ça m'embête de pas pouvoir reprendre. Non, en fait oui, j'ai toujours fait du sport, mais j'ai apprécié à partir du lycée. À partir du moment où je me suis dit, bah, en fait, c'est chouette. Ce que j'aime bien raconter, c'est que quand j'avais 15 ans, j'étais parti en Savoie avec mon parrain. Et il se trouve que mon parrain a un chalet là-bas, on allait souvent là-bas. Et il y a des montagnes du coup autour. Et on a été randonnée. Et j'étais derrière tout le monde, en train de râler, traîner les pattes, en mode c'est bon, c'est encore loin, ça sert à rien, c'est nul. Et puis au final, là, j'ai fait peut-être 3800 km à pied. Donc, c'était une rando de 10 km quand j'avais 15 ans. Et maintenant, voilà.
Horizon Partagé, votre podcast de découverte.
Retrouvez-nous sur vos radios, vos réseaux sociaux et les plateformes de streaming.
On part avec 5% uniquement de connaissances, maximum. Si tu connais plus, c'est que tu as déjà fait. C'est d'ailleurs l'intérêt du voyage. Si tu pars en sachant tout, ça sert à rien. Mais donc du coup, moi j'ai appris plein de choses. Ouais, déjà j'ai appris... Je pense que la chose la plus importante de tout ça, c'est que c'est ce qui me convient. Tout ça, c'est ce qu'il me faut, quoi. Donc maintenant, j'oriente ma vie un peu autour de l'aventure, en faveur de l'environnement. Parce que sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de sens dans juste... Enfin, je trouve qu'il faut amener sa pierre à l'édifice, donc... amener du sens à tout ça. Mais oui, t'apprends plein de choses. T'apprends énormément de choses sur toi, sur ton environnement. T'apprends... Dans les Pyrénées, j'ai dû traverser 14 pays. Tu vois, t'as des paysages différents. Tu tombes... T'es en mai, tu trouves de la neige. T'as des cols que tu peux pas passer parce qu'il y a de la neige. Donc ça te fait revoir ton trajet, ça te fait revoir des choses. T'es seul. T'as la solitude qui est très différente en fonction du support de déplacement. C'est-à-dire que quand t'es en kayak à 7-8 km au large... t'es très seul alors qu'il y a plein de monde sur la plage. Et je sais pas si on peut citer ça, mais moi j'ai beaucoup pensé à la chanson d'Orelsan, Seul avec du monde autour. J'avais ça tout le temps dans la tête, en mode il y a des jet skis, du monde sur la plage, mais en fait t'es tout seul. Ça m'est arrivé d'être pendant 12 heures au large en kayak assis, et t'as le temps de réfléchir, mais au fil du temps tu réfléchis moins ou différemment. En fait, sur Terre, c'est marrant parce que déjà, tu rencontres du monde en fonction du temps. Dans les Pyrénées, j'ai mis 35 jours à traverser les Pyrénées. Sur 35 jours, j'ai eu environ 26 jours de pluie, d'orage, de brume. J'ai eu de la grêle, j'ai eu du tonnerre, j'allais à l'attaque d'un col et il y avait un éclair qui m'est passé au-dessus de la tête à ce moment-là. Et je me suis dit, est-ce que j'y vais pas, t'attends 2 minutes, il n'y a plus rien, bon, t'y vas, et puis voilà. Ce qui est pas malin. Mais voilà, donc en fait, quand il pleut, quand il fait pas beau, tout ça, t'as rarement du monde sur les sentiers. Donc du coup, ça intensifie encore plus les rencontres. Tu rencontres quelqu'un, tu demandes si ça va, tu demandes s'il a de l'eau, tu demandes s'il a à manger, tu demandes s'il sait où il va, s'il sait ce qu'il va rencontrer. Tu te donnes les points où il y a des trucs bons à manger aussi. Ça fait plaisir. Et non, voilà, donc en fait, les rencontres sont... Quand t'es dans un périple comme ça, les rencontres, elles sont à la fois intenses et épurées. C'est-à-dire que le premier truc, c'est pas « Ah, salut, comment t'appelles, t'as quel âge ?» C'est « Ça va, tu fais quoi ? T'en es où ? Tu vas où ?» C'est vraiment, on rentre dans le concret direct. Et en fait, c'est le principe des relations éphémères. Une rencontre éphémère, tu vas entendre plus de choses personnelles qu'une rencontre formelle, on va dire. Par exemple, j'ai rencontré un pompier. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais en train de monter à un col, et toujours dans les Pyrénées. Et je commence à entendre le tonnerre qui est sous moi. Donc en gros, ça me vient d'en bas, donc c'est assez surprenant. Et puis je rencontre un gars, et puis on parle 5 minutes, et il me dit qu'il est pompier, et au final, je commence à lui dire, bah, franchement, chapeau, j'adore ce métier, mais je pourrais jamais faire ça, parce que je prendrais tout sur moi, l'empathie, machin. Il me dit, bah ouais, d'ailleurs, ça commence à être compliqué, je commence à me dire avec mes enfants, machin. Et puis d'un coup, il se réveille et il me dit, je sais même pas pourquoi je te dis ça, j'en ai même pas parlé à ma femme. Et c'est... En fait, tu rencontres quelqu'un, tu sais que tu vas probablement plus jamais le rencontrer dans ta vie, donc tu lâches ton sac, quoi. Tu vides ton sac, et puis tu racontes des trucs. Enfin, voilà, c'est... Pas toujours, mais des fois. Enfin, c'est génial, c'est assez impressionnant de voir les gens, la sincérité des gens à l'extérieur quand tu vas à l'essentiel. En fait, c'est ça la randonnée, hein. Tu vas à l'essentiel parce que plus t'as ton sac qui est lourd, plus c'est dur de le porter, donc il faut le vider. Et ton sac, c'est à la fois dans le dos et à la fois dans la tête. L'hygiène, c'est les rivières, les t-shirts, les chaussettes, les caleçons. Dans la, tu trouves une rivière, tu fais en sorte de nettoyer tout ça et tu mets à sécher sur le sac à dos. Et dès que tu peux, tu fais ta toilette, quoi. C'est très important. Par exemple, les pieds, c'est tout con, hein, mais ça sent vite. Et sentir, c'est une information. Il faut s'occuper de ça. C'est ce qui te permet d'avancer. Donc du coup, moi, la règle, c'était se laver les pieds tous les soirs, même si j'ai à peine à boire pour la nuit. Non, mais c'est vrai que c'est un réel problème. Je pense qu'on n'en entend pas beaucoup parler de gens qui font des trucs. Tu vois, Mike Horn, il va pas te dire qu'il sentait les pieds. Mais en même temps, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est apprendre à gérer ton corps pour qu'il aille le plus loin possible. Qu'est-ce que c'était ma plus grosse galère d'arriver? Non, ma plus grosse galère, c'est je sais pas. J'avais une ampoule sur un talon. Et je me suis lavé les pieds dans un lac où finalement il y avait un oiseau mort dedans. Donc quand je remarque ça, je me rince bien le pied à l'eau claire, même si j'ai plus à boire, je rince. Je désinfecte, je couvre pour protéger et je pars. Je fais une journée, 24 km, bon voilà, j'avance, j'arrive à un endroit, une fontaine, donc là de l'eau clairement potable, je bois dedans, je me rince dedans, enfin voilà, je fais ce que j'ai à faire et je vois que le pied est toujours couvert, donc là, l'ampoule est toujours couverte. Et comme tu peux pas emporter 45 000 pansements et matériel, je me dis, je vais garder encore une journée, ça ira bien. Non. Donc du coup, c'est pas une bonne idée. Je repars le lendemain. Le lendemain, j'ai à un moment 500 mètres de dénivelé positif à faire, avec complètement au soleil, et les seuls endroits où j'étais à l'ombre, je constate une température de 34 degrés. Donc insolation, donc macération, puisqu'on voilà, et fatigue totale. Donc j'avance le soir au bivouac, j'enlève mon pansement et une ampoule. Qui a mal, c'est une ampoule infectée. Et infectée, mais terrible. C'est-à-dire qu'un cratère. Enfin bref, je passe les détails. Et du coup, mon réflexe a été un antibio. Parce que dans les Pyrénées, j'avais eu pareil des ampoules infectées parce qu'il a plu, il a fait soleil, il a plu, il a fait soleil. Enfin bref. Et j'avais croisé une médecin qui me dit bah, prends des antibios. Et c'était trois fois moins important que ce que j'avais là, à peu près. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, quitte à être en montagne seul, perdu, où il n'y a pas de réseau, autant éviter la septicémie. Dans le doute, vaut mieux faire un petit antibio au cas où. Et puis, au final, le médecin m'a confirmé le lendemain, enfin, le surlendemain, que c'était une bonne idée d'avoir fait ça. Après, je pense que je n'ai pas eu d'énormes galères, quoi. Je ne me suis rien pété. En kayak, je n'ai pas dessalé une seule fois. Non, à vélo, je crevais une seule fois. Après, il y a eu des moments désagréables. Par exemple, à vélo... Le pont de Normandie, je conseille pas. C'est pas une partie de plaisir, quoi. Croquer dans une pomme après une semaine sans en avoir eu, c'est la meilleure sensation que j'ai eue. Tu te couches avec la faim, tu te réveilles avec la faim parce que t'as rien à manger encore. Tu bois de l'eau pour combler. Pendant très longtemps, j'ai mangé tous les soirs purée, cacahuètes, saucisson, fromage. Tous les soirs. Parce qu'en fait, c'est un compromis énorme. Tu vas pas prendre un bocal en verre avec de la ratatouille dedans. Tu vas pas prendre, surtout en montagne. En Bretagne, je le faisais. Mais en montagne, quand t'as 2000 à monter, moins tu portes, mieux c'est. Mais ouais, les cacahuètes, c'est de la protéine, c'est du gras, donc de la calorie, du sel. Donc tu perds beaucoup de sel en marchant parce que tu transpires. Et enfin, du goût. Au début, j'étais là en mode, ouais, j'ai eu trop faim, c'est nul. C'était un truc de fou et tout. Non, c'est un truc de fou pour un petit occidental toujours vécu chez ses parents, toujours vécu en France. J'ai jamais pas mangé pendant une journée. Enfin, drôle de sensation de se dire « Ah, j'ai eu faim ». Non, j'ai pas eu faim, j'ai pas mangé pendant une demi-journée. Tout va bien.
Horizon Partagé, votre podcast de découverte.
Retrouvez-nous sur vos radios, vos réseaux sociaux et les plateformes de streaming.
Je me sens changé dans le sens où je sais que, déjà, c'est une phrase qui est énorme, en fait, dans la vie de quelqu'un, je pense, c'est « je suis capable ». Rien que ça, juste ça. C'est, je sais que tu me dis de faire 800 bornes pour traverser les Pyrénées, je sais que je peux le faire. Mais il y a un truc dont je suis assez fier, c'est que je ne me suis jamais dit une seule fois du 20 mai au 26 janvier, jamais une seule fois je me suis dit « j'en ai marre, je veux rentrer ». Je me suis déjà dit « je veux avancer plus vite pour arriver à mon objectif », mais jamais je me suis dit « j'en ai marre, je veux finir maintenant, je veux arrêter ». Le projet, c'est de faire une exposition nomade, parce que je n'ai pas envie d'imprimer 45 expositions, sinon ça n'a aucun sens avec ce que je fais. Donc, et puis il faut continuer l'aventure, donc je vais encore continuer à voyager avec. Et l'idée, c'est de faire 30 portraits autour de la France sauvage pour parler de nos paysages, de notre biodiversité et des enjeux énormes qui sont liés, quoi. Et des choses qu'on voit, mais comme celles qu'on ne voit pas. Un peu un appauvrissement de la biodiversité en forêt, mais toujours un petit espoir de transmettre des choses. Et c'est un peu ce qui ressortait dans tous les portraits, d'ailleurs. C'est... À la base, je voulais faire un contraste entre... deux portraits, puis 15 fois. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui me parlerait des merveilles, l'autre qui me parlerait des désastres. Et en fait, finalement, chaque personne m'a parlé de trucs bien et moins bien. Et au final, c'est 30 contrastes sur des sujets en particulier. Le gars que j'ai interviewé, c'est le gardien du refuge des Cortalets, au pied du mont Canigou. Il me dit que ça fait 30 ans qu'il crapahute dans ces montagnes. Donc en 30 ans, il a vu le glacier disparaître et le glacier même sous roche disparaître aussi. Il a vu des changements au niveau de la végétation. Et en fait, c'est hyper passionnant de voir l'impact localement, l'expérience de ces gens qui sont baignés dans leur milieu. À mon humble échelle, j'ai pu me rendre compte de ce qui se passe, quoi. Et c'est un peu ça le travail, c'est... entre guillemets, fasciné par l'aventure, parce que ça donne envie d'écouter une histoire. C'est un peu ça, finalement, raconter une histoire. Et dans l'histoire, intégrer cet état des lieux de notre pays, de localement, près de chez nous, il y a plein de choses qui se passent. Et encore, j'ai fait que le tour de la France. Je ne suis pas allé au milieu. Et il y a des choses partout qui se passent, et il y a des choses importantes à faire partout. Et en fait, ça montre aussi que localement, on peut agir très simplement, mais avec conviction et avec envie. Tout est une question d'envie. J'aurais pas fait le tour de la France si j'en avais pas envie. Jamais de la vie. Qui va se forcer à faire ça juste pour... comme ça? Ça sert à rien. Ça montre énormément de choses. C'est entre l'être et le paraître. Je veux pas paraître avoir fait le tour de la France. Je veux l'avoir fait. Pour moi, en premier, mais surtout pour amener cette cause-là. Parce que j'en avais envie. Donc maintenant, donner le goût de la nature, le goût de l'environnement à des gens, c'est leur donner envie de le protéger. Quand on aime quelque chose, on en prend soin. Voilà. La prochaine aventure, c'est mettre au propre le brouillon que je viens de réaliser pendant 8 mois et quelques. Donc voilà, il y a tout ce travail de retranscrire tout ce que j'ai vu, parler de tout ça, fignoler certaines choses, repartir un peu partout pour parler dans les écoles, dans les lieux publics, dans les entreprises, s'ils veulent bien de moi. Même collège, lycée, peu importe, université, s'ils le veulent, faire des conférences, parler de... s'engager, on va dire, assez fortement sur « j'ai vu ça, ça existe, on y est, et regardez tout ce qu'il y a à protéger, tout ce qu'il y a à faire et à quel point c'est magnifique ». Et puis après, préparer le reste des aventures et se former, ski de rando, s'il y a de la neige. Donc ça va peut-être pas être ski de rando, peut-être ça va être plutôt parapente. Enfin, je sais pas, repartir encore à vélo, à pied, en kayak, peu importe. Partir, sortir, il y a tout à voir dehors.